في الغابة لكان الجبال الكبير
الجبال الكبير
طلعت الغابة لكان الجبال الكبير
الجبال الكبير
فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمان فوق الجبل الصغير قباله بصرت من اليمان.
Alors vous avez une reconnaissance mondiale maintenant, le festival Babelmed. Spontanément, il y a des gens qui vous adressent des CD pour vous dire on aimerait bien participer au festival, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs.
Voilà, il y a les artistes effectivement qui postulent du coup pour, enfin qui candidatent pour Babel. Et après on le voit aussi sur le marché, il y a des gens qui viennent du monde entier. Là, il y a vraiment tous les continents qui sont représentés. C'est vrai que c'est un impact international.
Donc, sixième édition, les prévisions sont plutôt favorables. On a beaucoup de demandes, notamment sur le plan international. On a été sollicité d'abord par le bureau d'export de la musique française, qui jusqu'à présent était un peu en attente, et qui nous ont dit aujourd'hui, Babel Music fait partie du top 5, et donc on a des demandes de la part des producteurs.
Alors, le Forum des musiques à Marseille, il y a des équivalents, tu sais. Dans le monde, j'imagine qu'il y a d'autres festivals un peu dans le même style.
Autour. Oui, bah, par exemple, on peut penser au
Midem. Le Midem, ouais, à Cannes. Ouais.
Alors voilà, après, nous, on essaie de prendre ce qu'on essaye, mais on se distingue vraiment dans le sens où c'est tourné vers le spectacle vivant, donc c'est pas l'industrie musicale, c'est pas le marché de l'industrie. C'est vraiment, on met l'accent sur le spectacle vivant parce que finalement, là, les artistes, pour s'en sortir aujourd'hui, c'est une énorme carte à jouer que de trouver des dates. Donc là, c'est. C'est plus dans ce sens-là, quoi. Et d'où le fait qu'il y ait toute cette programmation le soir.
D'accord. Et alors, on trouve quand même des groupes locaux.
Sans chauvinisme aucun, parce que moi, je suis convaincu qu'on est meilleur dans une région quand on est ouvert sur les autres et qu'on donne la on fait la place aux autres, mais en tout cas c'est très important qu'il y ait aussi des artistes régionaux qui puissent se confronter à cette ouverture. J'en suis d'autant plus content que je vais faire des parallèles qui vont peut-être vous étonner, mais l'été dernier au Festival d'Avignon, il y avait des compagnies régionales qui ont été considérées comme parmi les meilleures productions in du Festival d'Avignon in.
C'est vrai qu'on essaye, il y a toujours effectivement quelques groupes de la région PACA pour montrer aussi tout ce qui se fait au niveau local et pour les mettre à la base. Finalement, c'est sur la même échelle que tous ces groupes qui viennent du monde. Il y a vraiment des choses superbes aussi qui sont faites au niveau local et c'est important de les mettre en valeur. Donc c'est l'occasion.
Nous ne sommes pas dans une logique du quota. Nous ne sommes pas du tout dans une logique où nous essayons d'imposer en échange de je ne sais quelle subvention ce genre de choses. Au contraire, nous sommes dans une logique de la confrontation et ce sont les comités d'experts eux-mêmes qui ont sélectionné les artistes régionaux qui vont se produire à Babelmed. Donc c'est une démarche qui est profondément artistique.
Alors en direct du festival Babelmed Musique, je suis avec Manu Théron de Le Corps de la Plana. Le Corps de la Plana qui a gagné un prix.
On nous a décerné un prix qui s'appelle le Grand Prix Babelmed.
Alors, le Corps de Plana, ça fait 10 ans qu'ils existent. Vous êtes domicilié à Marseille ?
On est domicilié à La Plaine, exactement, au quartier de La Plaine. Et ça fait 10 ans qu'on existe, qu'on exporte un peu aussi beaucoup à l'extérieur. Ce qu'on pense, nous, de la culture et de la musique.
Et vous chantez principalement en occitan ou exclusivement en occitan ?
Je chante exclusivement en noc, donc c'est du patois marseillais. C'est une des nombreuses variantes, on va dire, de la langue noc. Et ça depuis le début, puisque c'est le propos du groupe, en fait, de réappliquer à ce vieux répertoire traditionnel, de lui appliquer une pratique et une ébauche de vision, plutôt qu'une vision qui lui soit, qui le porte et qui lui donne une importance dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une identité que vous revendiquez en chantant justement en Languedoc ?
Aucune. On n'est pas dans un discours identitaire. Personnellement, je nie complètement la notion d'identité, je la récuse. On est dans des notions de culture, ce qui est complètement différent, et de rapport entre les cultures. Et ça, c'est beaucoup plus important c'est beaucoup plus fondateur et c'est beaucoup plus enrichissant pour la personne humaine de se fier et de s'interroger sur des cultures que de s'interroger sur des identités. Donc le propos n'est absolument pas identitaire, le propos n'est absolument pas basé sur l'identifiable ou l'identique et le dissemblable, il est vraiment basé au contraire sur ce qui rassemble, sur ce qui fait que les gens peuvent à un moment donné s'unir pour combattre la bêtise. On a des chansons qui sont plutôt des reprises, là pour le nouveau spectacle, de textes politiques de la commune et des grandes années de lutte ouvrière à Marseille entre, on va dire, sur une échelle très large, entre 1870 et 1950 à peu près. Et c'est une époque à laquelle il y avait énormément de personnes qui écrivaient des chansons en noc sur les combats du quotidien et sur les luttes ouvrières notamment. Et puis il y a des chansons qu'on a écrites nous, qui sont sur les combats d'aujourd'hui qu'on mène, dont je t'ai parlé juste avant, contre la bêtise et contre la notion d'identité. On est 6 chanteurs, il y a Benjamin Novarino Giana et Rodin Kaufmann qui sont en host. Moi, je m'appelle Manu Théron, je suis dans une voix qu'on appelle seconde, c'est-à-dire la voix qui fait la mélodie en général. Les autres chanteurs sont Sébastien Spessard qui est en basse et aussi Manuel Barthélémy qui est en bourdon, en mélodie et enfin Denis Sampieri qui est en basse et nous sommes tous aussi percussionnistes. Il n'y a jamais eu de polyphonie en musique occitane à part dans les endroits très éloignés, très retirés comme les montagnes pyrénéennes ou les montagnes du Piémont. Mais sinon, non, c'est aussi une proposition qu'on a eue. On a vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient un désir de reprendre ce répertoire et qui n'avaient pas d'idée ou pas vraiment de confiance dans une façon de les reprendre à plusieurs. C'est des chants qui sont collectifs pour la plupart. Aujourd'hui, qui dit collectif dit polyphonie, qui dit chœur dit plusieurs voix. Et donc, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait réécrire pour ces gens qui aujourd'hui ont envie de chanter ce répertoire. Et pour ces gens qui ont envie de se l'approprier. Tous ceux qui se reconnaissent là-dedans, dans ces luttes, dans ces combats, dans cet imaginaire. Le but, c'est de leur donner une proposition artistique.
Et le fait comme ça de chanter en occitan, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est quand même un frein pour la compréhension du message? Parce que l'occitan, c'est quand même pas une langue qui est répandue à l'heure actuelle, même en Provence.
Le propos, il est musical. La musique, elle rassemble. Et quelle que soit la langue, l'important, c'est la musique. Voilà. Et par rapport à ça, se poser des questions ou se faire des barrières par rapport à la langue, c'est très très français. Cette question, elle est française, il faut le savoir. C'est-à-dire que dans aucun autre pays au monde, et on a beaucoup tourné dernièrement, sur les 5 continents, dans aucun autre pays au monde, on nous a demandé pourquoi on chante en occitan. Après, il y a des pratiques musicales qui sont différentes, et il y a des pratiques d'écoute de la musique qui sont différentes en fonction des pays où on va. C'est-à-dire qu'en Afrique, on n'écoute pas la musique comme on l'écoute au Moyen-Orient, ou comme on l'écoute en Asie, ou comme on l'écoute aux États-Unis ou dans les pays occidentaux. Il y a des systèmes de représentation de la musique qui sont complètement différents selon les pays. Et ça, c'est à nous de nous adapter et de ne pas imposer des conditions occidentales de représentation. C'est à nous de nous adapter, je pense qu'on en est capable parce que ce qu'on propose est extrêmement léger, donc très, très facile d'adaptation.
Mi parle pas des travailleurs, tout ce qu'elle gagne à sa vie.
Mi parle pas des travailleurs, tout ce qu'elle gagne à sa vie.
On a 3 créations en prévision, la création de notre nouveau répertoire personnel, donc du répertoire politique qui est en train de se finir et qui nous donnera lieu à un disque d'ici la fin de l'année. Ensuite, il y a une création avec des musiciens algériens du sud de l'Algérie, de la région de Béchar. Et puis enfin, il y a une création avec des musiciennes, des chanteuses italiennes qui ont un peu le même système, un système musical où c'est basé sur le binôme percussion-voix. Cette création-là aura lieu à la fin de l'année aussi. Donc voilà, c'est nos 3 principaux chantiers musicaux actuels.
Alors malgré une certaine notoriété à Marseille et donc à Bab El Med, ils avaient quand même des difficultés apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, C'est-à-dire que pour avoir rien que le statut d'intermittent du spectacle, certaines personnes dans votre formation ont des difficultés.
Le système français, il est ainsi fait que si on travaille sur un projet unique, on a beaucoup de mal à s'en sortir dans des musiques de marge comme les nôtres. Les musiques du monde ne sont pas des musiques d'industrialisation de masse, donc par conséquent, on ne bénéficie pas des mêmes avantages au niveau médiatisation que les musiques industrielles, de commercialisation de masse. Donc du coup, c'est vrai qu'on est soumis aux impératifs du statut. Bon, mais moi, je ne m'inquiète pas trop, en fait, parce que les créations avancent, on est à Babelmed, ça fait 10 ans qu'on existe et 10 ans qu'on est intermittent.
Mlaridoum, laridoum, lagidigidi, lodoum, laridoum, laridoum, lagidigidoum.
Oh, mi parle pas de travail, à tous qui gagne à sa vida.
Mi parle pas de travail, à tous qui gagne à sa vida.
Mais là, au niveau des tournées, on a eu beaucoup de dates sur les USA, des dates assez prestigieuses. Le Canada, idem avec les francopholies. Bon, on a eu une grosse tournée au Brésil, donc Manu Théron est considéré comme le Che Guevara de la musique occitane au Brésil, c'est une grosse star au Brésil. Pareil, Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Koweït, Israël, Malaisie, La Réunion, la Norvège, la Slovénie, tous les pays d'Europe de l'Est, le Sud également, donc le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Et là, le Royaume-Uni, beaucoup de dates, une grosse tournée au mois de septembre aussi en Angleterre. Un problème qu'on a en France quand même au niveau des médias nationaux et locaux, c'est l'utilisation de la langue occitane qui est considérée comme passéiste, comme régionaliste, comme assez fermée, voire élitiste. Alors que c'est plutôt une langue populaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette barrière de la langue à l'étranger. Ils écoutent la musique, ça leur plaît, ils en demandent. Et le New York Times fait des articles dithyrambiques sur le corps de la plane, qu'on a un petit peu de mal, ne serait-ce qu'en presse locale, à obtenir une chronique pour le corps de la plane.
Doum lari doum lari doum lagi digi di. La doum lari doum lari doum lagi digi doum.
Oh, mi parle pas de travail à tous qui gagne à sa vida.
Mi parle pas de travail à tous qui gagne à sa vida.
En fait, à la sélection de Babelmed Music, ça se passe sur candidature. Donc on reçoit plus de 900 candidatures. Et après, tu as un jury, deux directeurs artistiques qui étudient ces candidatures, qui font une première sélection. Et ensuite, y a un jury professionnel qui est convié, donc une quinzaine de personnes, de journalistes ou de directeurs artistiques de festivals, qui se retrouvent pour faire la sélection seconde, où là, il y a une cinquantaine de groupes qui sont retenus sur les 900 de départ.
D'accord.
Et donc après, parmi ces 50-là, il y a donc les 30 sélectionnés qui en ressortent. C'est essentiellement pour la découverte aussi, donc c'est des showcases de 45 minutes par groupe, donc ça permet de passer de l'un à l'autre. Généralement, on a moyen de tout voir quand même.
Parce que c'est vrai qu'en dehors de Papa Wemba et Gevende, que j'ai pu voir au Festival Mimi l'année dernière, puis bien sûr le corps de la Plana parce que j'habite à Marseille, mais les autres groupes, je les ai découverts avec le festival.
Voilà, c'est aussi une vraie vocation de cet événement, parce que voilà, de pouvoir découvrir 10 groupes dans une soirée des quatre coins du monde pour 15 €, enfin...
Alors il y aura aussi, bien sûr, Yemen Blues, la voix royale du blues yéménite. Alors ça, je l'ai mis aussi, on a pu l'écouter, alors ça c'est bien aussi.
C'est génial, Yemen Blues, c'est génial, il a une voix...
Et apparemment c'est tout neuf, quoi, ils n'ont même pas un CD.
Ben exactement, ils sont en phase de faire
leur premier album, ouais.
Dans la salle, il y a la fameuse salle des sucres. Il y a un chapiteau qui est monté en extérieur, un grand chapiteau. Mmh. Et en intérieur, il y a aussi le cabaret, ce qu'on appelle le cabaret, qui est la plus petite salle et qui est une salle d'écoute, en fait. Donc d'accord. C'est vrai que c'est vraiment, ça touche aussi tous les publics. On peut écouter autant des polyphonies, par exemple au corps de la Plana, assis en écoute, que d'autres groupes plus festifs dans la grande salle. Il y en a effectivement pour tout le monde.
Il y en a pour tous les goûts.
Un peu cette vocation aussi de permettre à des artistes de faire leurs preuves justement sur scène, devant tous ces programmateurs qui sont venus à Babelmed Music pour après trouver des dates en plus. Enfin, c'est vraiment pour faire une sorte d'émulation autour de la scène, quoi, essentiellement. Aussi Axel Krieger, en fait. Moi, là, j'ai essayé
de faire un petit Krieger.
Axel Krieger.
Buenos Aires.
Un petit coup de cœur pour Axel Krieger.
Ha ha ha. pour moi tout plein de vite.
Il y aura aussi plein d'autres groupes.
Mais il y a un truc qui me fait délirer aussi, ce groupe norvégien là, SkyD.
Ouais,
c'est hyper, ouais, super original.
J'ai l'habitude d'entendre une voix comme ça et si peu instrumentalisée.
Ah, Oussa aussi, ça c'est bien.
Alors, Oussa, d'ailleurs, j'ai sélectionné ce projet.
Ah, d'ailleurs. Oussa, et ben voilà.
C'est parti. Alors on dirait que c'est la Belmed, ce soir on va pouvoir voir le groupe Aoussa, un groupe marocain qui vient de Casablanca. Alors je suis en présence de...
Khalid Mourdal, le chanteur du groupe, chanteur, compositeur, un petit peu parolier du groupe. Aoussa, il y a 8 ans qu'il est là. Seulement la formation, elle a changé, on n'est pas restés les mêmes. Il y a des membres qui sont partis, d'autres qui sont venus, il y a eu pas mal de changements dans la formation. Et là, heureusement, depuis 3 ans, on a repris un petit peu les choses en main et depuis, on est les mêmes, on n'a pas changé la formation, elle est la même depuis 3 ans.
Vous êtes combien, 5?
Oui, 5. Oui.
Batteur, bassiste, guitariste et chanteur?
Et DJ, oui.
Alors comment vous qualifiez votre musique? Parce qu'apparemment, c'est assez difficile de vous qualifier, c'est un croisement de plusieurs styles musicaux. Oui. On parle de punk rock, d'ethno rock à la marocaine.
Alors, je crois que le terme le plus adéquat, ça serait l'alternatif. Je crois que c'est de la musique alternative. C'est le terme le plus approprié, je crois, à ce qu'on fait. Du punk, on en a, mais c'est pas la couleur principale. On en a, c'est comme toutes les autres influences qu'on a. Ça veut dire on fait du hip-hop jusqu'au punk, en passant par... Passant par du funk, en passant par du reggae, en passant par des musiques qui nous appartiennent, soit à nous, soit à nos voisins, ça veut dire tout ce qui vient de l'Orient. Donc ça, c'est le mélange de toutes ces couleurs-là. C'est auquel on essaie, et c'est pas une prétention, c'est quelque chose qui vient de nous-mêmes. On essaie de rajouter à toutes ces couleurs-là une touche identitaire, si je me permets de le dire.
C'est-à-dire une touche identitaire, c'est-à-dire toutes les cultures qui ont par exemple formé le Maroc.
Mais en général, on a vécu avec des parents qui écoutaient du Oum Kulthoum ou du Abd Halim. Donc on a ça, qu'on le veuille ou pas, on l'a. Seulement, est-ce qu'on l'exprime ou non, c'est ça le... C'est ça où se pose la question. Donc, par identité, je voulais dire, si on joue du funk comme ce qu'ont fait les Américains il y a 40 ans ou 50 ans, c'est juste en changeant la langue. Nous, pour nous, c'est pas grand-chose. Tu changes juste la langue, il n'y a pas de plus. Pour nous, il n'y a pas de plus. Donc, on essaie de ramener quelque chose qui nous identifie un petit peu, qui nous...
Moi, j'ai un exemple là en tête, parce que j'en ai parlé avec un journaliste là, de la chaîne marocaine, et on parlait de Oba Oba Spirit, qui avait repris un titre de Motorhead à la sauce marocaine.
Je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose, mais c'est la même idée. Sauf que moi, j'aime pas faire les comparaisons, hein, chacun il part de ses bases. Seulement, nous, on est contre le fait d'essayer de creuser dans le cerveau plus que dans le cœur. C'est ça le ça veut dire on n'essaie pas de se différencier à tout prix, à tort ou à travers. Non, il faut, si on veut par exemple rajouter quelque chose à la salsa, il faut qu'on ressente cette chose là il faut pas que ça soit seulement réfléchi. Il faut qu'on se dise, ah, là, on va peut-être mettre du bendir, là, ça va faire un petit peu le plus. Non, il faut qu'on ressente ce besoin-là. Sinon, ça, pour nous, c'est pas de l'art. Tu essaies de voir où placer quel instrument et où le placer pour attirer l'attention ou pour toucher les gens. Nous, il faut qu'on exprime d'abord ce que nous, on a envie d'exprimer.
Et qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer ?
Ben, ça dépend. On chante la folie, on chante la rage, on chante, en tout cas, on est taxé d'un groupe...
Anarchiste.
Anarchiste, mais on l'est pas, c'est l'attitude qui l'est. Mais pas nous. Mais pas nous.
Mais vous dénoncez beaucoup ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau du fait qu'ils ne font pas grand-chose pour le peuple.
On dénonce, en gros, on va dire les inégalités devant l'emploi, les inégalités dans la répartition des revenus, les inégalités devant devant la loi. Ce sont ces inégalités-là qui nous font plus parler qu'en d'autres sujets, quoi.
C'est une des principales raisons qui vous fait prendre le micro, le fait de pouvoir comme ça dire des choses qu'on ne peut pas dire d'une autre façon, le fait que par exemple les gens n'ont pas d'emploi ou qu'il y a des difficultés au Maroc et que en fait il y a très peu de médias qui se donnent les moyens ou se donnent l'envie d'exprimer la réalité. Et vous, justement, en prenant le micro par ce biais-là, par le biais de la chanson, par le biais de la culture, vous pouvez exprimer certaines choses.
Les sujets qu'on aborde, c'est pas des sujets, je vais dire, nouveaux. Ils ont déjà été abordés par pas mal de groupes. Mais seulement, je vais pas dire ce qui nous différencie, mais un petit peu. En tout cas, c'est mon cas, c'est moi qui écris. Lorsque j'écris, je me mets à la place du spectateur, du récepteur ou du. Ok, tu vas parler d'un sujet, mais tu vas pas parler, tu vas le chanter. Si tu chantes, tu fais de la musique, donc tu fais de l'art. Et l'art, pour moi, c'est une petite définition. À moi, l'art, c'est cette chose-là qu'on ne peut pas la normaliser pour la faire suivre une fonction de telle sorte qu'à un moment donné, tu vas être là. Non, c'est quelque chose qui se passe, c'est de l'impalpable. Donc, tu peux aborder un sujet qui a été abordé par pas mal d'autres groupes, mais il y a cette touche-là, c'est ton âme, c'est ta conviction qui va plus toucher les gens que les paroles elles-mêmes. Nous, on est comme ça. On a du mal à parler d'une chose qui fait mal d'une façon directe.
Mais c'est un peu l'esprit rock quand même.
On ne vise pas les dirigeants, nous on parle au peuple. C'est plus une question de civisme, on n'attend rien des dirigeants. En tout cas, on ne peut rien attendre d'eux. C'est une vision pessimiste mais réaliste. Et c'est comme ça. On s'adresse au peuple, aux gens, aux Marocains qui sont là pour parler de problèmes et pour partager des folies et des plaisirs aussi. Il n'y a pas que des problèmes. Hein. Donc, ce qu'on attend des dirigeants, qui nous laissent au moins dire et chanter ce qu'on a envie de chanter ou de dire. Mais ceci dit, il n'y a aucune garantie que ce qu'on fait ne sera pas un jour interdit. Hein. Il n'y a aucune garantie juridique. Ben, tu vas être interpellé pour un truc que tu ignorais, que c'était illégal. Là, tu chantes ce morceau depuis 7 ans et tu le chantais devant des millions de personnes et tout le monde le chantait avec toi. Et là, après 7 ans, je peux sortir moi le policier ou je ne sais pas quel dirigeant pour te dire que c'est illégal ce que tu faisais. Et là, tu vas être en poursuite judiciaire.
Mais c'est quelque chose qui vous est arrivé déjà par rapport à un titre ?
Jamais, mais on s'attend à ça. Ça, c'est le Maroc. Hein. C'est pas seulement la musique. C'est en général, il y a un fossé énorme entre le théorique et le pratique. Il y a deux lois. Et c'est à toi de voir.
C'est à toi de naviguer.
Où et quand naviguer. Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on peut parler au Maroc ou justement à Casablanca d'une scène marocaine ou d'une scène casablancaise au niveau des musiques, au niveau du rock? Parce que je sais que moi, on a parlé de Motorhead tout à l'heure, je sais qu'il y a beaucoup de fans de rock aussi.
Oui, il y en a, du rock, il y en a. Moi, si tout à l'heure, je vous ai parlé de nos parents qui écoutaient du Abdel Halim ou de Oum Kulthoum, ils écoutaient aussi Deep Purple et Led Zeppelin. Pour ce qui est scène, Déjà pour parler de scène, il faut parler d'infrastructure. Tout ce qui est artistique, c'est quelque chose qui relève du secondaire, pour ne pas dire tertiaire ou pire.
Non mais chez nous, parce qu'on a des infrastructures, par exemple un festival comme à Belmed, est-ce qu'on peut retrouver l'équivalent au Maroc ou à Casablanca?
Non, ben, c'est impossible. Les festivals pour nous, c'est quelque chose de très récent, les festivals pour nous. Le seul festival qui avait pour vocation vraiment la pérennisation un petit peu de tout ce qu'on a comme musique, c'était le festival de Marrakech. Maintenant, il est à, si je ne me trompe pas, 43e ou 44e édition. Mais tous les autres festivals, c'est quelque chose, moi je les qualifie de conjoncturel. La musique comme tremplin pour autre chose, économiquement parlant. Le but, c'est l'argent. Hein. Le but, c'est l'argent. La musique, parce qu'elle draine plus d'argent pour les organisateurs qu'autre chose. Si c'était les chevaux, ça serait des festivals de chevaux. Hein. Mmh. C'est ma vision des choses. Hein. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça se passe.
En tout cas, c'est la vision d'un artiste quoi, qui a pu participer à des festivals.
Oui.
C'est la première fois que vous jouez à Marseille?
Oui, la première fois qu'on vient à Marseille et qu'on y joue. Tout à l'heure, je me suis levé à 5h30 du matin pour aller voir le port. Mais les pêcheurs, ils sont, c'est pas les mêmes, les pêcheurs. Hein. Ils sont paresseux, les pêcheurs.
Ici
les pêcheurs,
c'est, ouais, oui. Pourquoi tu dis ça?
Ah, bah, attends, bah, à 6h30, il n'y avait aucun pêcheur, non. C'est,
si,
pour
si.
Nous, c'est inconcevable.
Quoi, sur le vieux port en train de vendre du poisson, tu vois?
Le vieux port, oui.
Non, non, mais à ils arrivent à 8h. Il n'y avait
aucun pêcheur.
Pourquoi?
À 6h30, chez nous, c'est, le marché, il est presque à sa fin.
C'est pas vrai?
Oui.
Il démarre à 8h du matin.
Les projets, moi j'ai des projets un petit peu en parallèle avec ce que je fais avec le groupe, c'est du slam, comme on appelle chez nous, c'est du Zegel. Zegel, Z-A-J-A-L.
D'accord.
Le Z, il est léger, c'est pas ZA, mais c'est ZA. Parce que les mots en français, les lettres, elles n'ont pas de sonorité, il faut leur rajouter des voyelles.
D'accord.
Et si tu mets un Z-A, ça va faire toujours ZA et non pas ZA.
Ah,
et la même chose pour ma et ma, ça et ça, et la même chose. La conviction que j'ai, le français, c'est pas pour le chanter. Mais en tout cas, pour moi, le français, laisse cette langue-là pour parler. En tout cas, j'arrive pas à trouver la musicalité dans le français.
Atelia, G-Fly.
Alors Amazigh, il va jouer ce soir au Festival Babelmed Music.
Ouais.
Alors bonjour.
Bonjour à toi, salut à vous.
Alors tu présentes un nouvel album?
Oui, un album qui est sorti le 17 octobre 2009, qui s'appelle Marché Noir, et qui est sorti d'abord en indépendant, puis après chez Iris Music, en distribution chez Iris Music, Harmonia Mundi.
Le style de musique, ça reste occidental ou c'est un mélange avec tes origines?
C'est plus quelque chose qui est recentré sur des influences plus algériennes, avec des choses assez personnelles, comme des textes de mon père, par exemple, que j'ai mis en musique cette fois-ci. Aussi des textes qui concernaient plus mon exil, mon rapport à l'Algérie, mon rapport au fait que je sois parti il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, j'ai une identité dans l'exil qui est très ancrée, c'est-à-dire que je suis devenu presque un exilien, un peu grâce à la musique aussi, parce que en fait, à l'époque, quand j'étais dans Gnawa Diffusion, je recomposais une sorte de petite Algérie. Ça m'a appris à me passer de mon pays. Et ça m'a tellement appris à me passer de mon pays que maintenant, quand j'y vais, ben, j'ai l'impression que je ne retrouve pas mon pays réellement. Parce que ça fait très longtemps que je suis parti. Et parce que je me suis refait un autre univers fait de musique, de choses qui ne sont pas forcément toute la complexité d'une société. Quand je descends en Algérie, j'ai tous les problèmes de l'Algérie qui me sautent à la gueule. Finalement, l'Algérie dont j'ai pris soin et que j'ai voulu reconstituer ici, c'est une Algérie très idéalisée. Donc peut-être que c'est un album aussi de transition vers ça, entre une époque en tout cas où je ne pouvais pas rentrer à cause du service militaire. Pendant 10 ans, moi, je ne suis pas rentré en Algérie. Puis là, pour moi, c'est autre chose parce que maintenant, j'y vais 4-5 fois par an et je me rends bien compte de la difficulté des choses, de la dureté de la vie, du sabotage permanent, des rouages rouillés, de l'aspect mafieux des choses, de la politique, de la culture, de tout. Voilà, c'est un peu mon truc personnel. Plus qu'une histoire de groupe, c'est pas comme Gnawa Diffusion.
Le fait d'habiter en France et de retourner en Algérie permet de prendre conscience des gros problèmes qui se passent en Algérie.
En fait, j'en avais conscience, mais en les vivant et en les revoyant à chaque fois, et surtout en ne voyant pas les choses évoluer, ça provoque d'autres choses, notamment dans l'écriture. Aujourd'hui, quand je parle de l'Algérie, j'en parle plus de manière aussi idéalisée. Je pense qu'à l'époque où je savais même pas quand est-ce que je pourrais rentrer, parce que j'étais insoumis, j'avais pas répondu à un ordre d'appel pour l'armée. Il y a beaucoup les chants et les chœurs, c'est très. C'est ça la base de la musique Gnawa. C'est le gembri, le kharkabou et le chant. Après, on mélange avec d'autres instruments de percussion, la derbouka, des congas, du cajon, des bongos, plein de choses. On mélange avec un instrument typique du chabi algérois qui s'appelle le mandol, qui est à la base un instrument italien, qui est le mâle de la mandoline. En fait, c'est comme une mandoline grave. Sauf qu'il a été transformé en Algérie par le maître du chabi qui s'appelle Hajj Mohamed Al-Anqa, qui a transformé le mandol pour le rendre algérois. Je crois qu'il lui a rajouté deux cordes ou quelque chose comme ça. Il l'a transformé en cinq cordes doublées. On utilise aussi des sons de clavier et aussi il y a un DJ qui scratch, mais qui balance aussi beaucoup de sons ethniques. Parce que c'est quelqu'un qui travaille sur des bases essentiellement africaines, mais aussi égyptiennes parfois, des trucs indiens, des trucs mauritaniens, tout ça. Donc lui, il amène... des fois la touche un peu hip-hop ou un peu urbaine, mais parfois il amène une touche qui est vraiment l'Afrique, quoi. Donc il y a mandol et karkabou, chant, musique, mais essentiellement mandol. Donc ça c'est Petit Moh, Mohamed Abdennour. Ensuite il y a Amar Chaoui qui a la percussion, toutes sortes de percussions. C'est un gros stand en fait, ça sonne comme une batterie un petit peu. Il y a Mehdi Zeouch qui est au clavier, synthétiseur. Et il y a DJ Boulawan qui est au platine. Et à moi-même qui suis au chant et au gembri. Voilà. Et la grosse, grosse différence dans le travail entre Gnawa et ça, c'est qu'à l'époque où j'étais avec Gnawa, on cherchait essentiellement des moments pour être tous ensemble, pour pouvoir composer ensemble, parce que même la compose passait de manière collective, ce qui était assez laborieux. Comme je me suis mis la responsabilité de composer moi et d'amener ensuite les choses aux musiciens, c'est plutôt dans le voyage. C'est pas vraiment se rassembler à un endroit et rester statique. C'est plutôt voyager, écrire, s'échapper du quotidien, composer, faire des choses, revenir et les faire, même parfois sur la route. Tu vois, il y a plein de prises dans cet album qui ont été faites dans des salles de bain, dans des chambres à coucher. On a mis des matelas contre les murs pour mater le son. J'avais pas la contrainte de la production. Là, c'était vraiment sur la route, avec mon ordi, une petite carte son, un micro. Avant, nous, on enregistrait sur des systèmes analogiques, sur des magnétos à l'ancienne, que ce soit Algeria, Babelwet Kingston. Les deux premiers, en tout cas, les deux disques qui ont été faits dans les années 90 ont été faits avec des vieux magnétos à bande.
Moi, je voulais vous parler de votre père, Kateb Yassine. Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre donc ces poèmes en chanson?
Ce qui a déclenché l'envie, parce que l'envie elle est là depuis longtemps, mais ce qui a déclenché l'envie et surtout le fait de se décomplexer par rapport à cette écriture, parce qu'il y avait à la fois le fait que c'est mon père et à la fois le fait qu'il est mort aussi, qui faisait que j'avais du mal à m'attaquer à cette écriture, en tout cas j'avais du mal à la triturer, j'étais pas à l'aise, j'avais l'impression de le trahir un petit peu. Et il a fallu que je travaille sur une de ses pièces qui s'appelle Mohamed prend ta valise. Ça s'est passé en 2006-2007. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Boulawan, DJ Boulawan, qui travaille avec moi aujourd'hui. Et il y avait aussi, dans le cadre du montage de cette pièce, Amar Chaoui et Mohamed Abdennour. Donc tu vois, il y avait juste un musicien qui manquait par rapport à la formation actuelle. Ouais. Pas Gnawa, mais celle-là. Cette formation s'appelle Le Poison Rouge, Sem Lahmar en arabe. Oui. C'est à l'occasion du montage de cette pièce de théâtre que moi, je me suis immergé dans son écriture, enfin en tout cas re-immergé dans son écriture. Et puis surtout que j'ai eu envie de le faire avec ces gens-là, que j'ai eu envie de le faire avec Najib, Boulawan, avec Petit Moh, avec Amar, parce que c'était déjà dans l'histoire. Ça n'a pas été facile, hein. Ça a été une grosse crise de larmes. Après, c'est venu un peu naturellement. Les textes, je les connais depuis longtemps. En les relisant, j'avais plein de mélodies en tête. Puis surtout, j'ai gagné une liberté. Et donc voilà, après, c'est arrivé comme ça. Je me suis même freiné parce que j'avais envie d'en faire d'autres. Mais je me suis dit, je vais déjà faire ces deux-là. Je vais rester tranquille. J'ai plein d'autres textes à moi qu'il faut que je mette en musique. Il faut que je travaille aussi ma matière. C'est un vrai... C'est une vraie averse. Quand je me mets dans ces textes-là, c'est déjà une averse d'émotions. Et donc forcément, si je commence à faire de la musique dessus, ça dure des heures et c'est super agréable, ça fait plaisir. J'ai l'impression de discuter avec mon père.
Tabi Yassine, c'est une légende de la littérature algérienne, un des fondateurs. Donc est-ce que c'est pas dur pour vous de porter ça aussi quelque part en étant son fils ?
Ce personnage-là, tous les gens qui l'aiment le portent. Je ne suis pas le seul à le porter. Moi, je porte mon père et c'est avec plaisir. Ce n'est pas quelqu'un que forcément tout le monde a lu, parce que ce n'est pas un auteur très commercial. Mais c'est quelqu'un qui a marqué parce qu'il a justement laissé l'écriture pendant pratiquement 15 ans pour faire du théâtre populaire. Et c'est comme ça, en fait, qu'il s'est fait connaître. Et en plus, il allait jouer dans les fermes, il allait jouer dans les usines, il allait jouer là où les gens ne vont jamais au théâtre. En fait, il allait chercher le public. Et donc ça a laissé des traces. Parce que quand tu as une troupe de théâtre qui débarque dans ta ferme, là où tu n'as jamais vu que des ânes et des chèvres, tu vois, ben ça te marque. Donc tu le racontes à tes enfants et tes enfants les racontent à leurs enfants. Et ça fait des enfants. Et c'est le but, c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas mieux que d'assurer la transmission par soi-même. Parce que les livres d'histoire sont truffés de mensonges. Et c'est des livres de vainqueurs et de vaincus. Et des vivants.
Album solo, reprendre encore des textes à lui ?
Peut-être que je vais faire carrément quelque chose où il n'y a que des textes à lui. Je ne sais pas si ça va être vraiment un album ou si ça aura une autre forme, mais j'ai envie de faire un projet comme ça autour de son écriture sur une thématique bien, bien précise. Peut-être faire des liens avec d'autres poètes aussi de la même époque, d'autres pays aussi. J'aime beaucoup Mahmoud Darwish par exemple, je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire. En plus, il y a un poète francophone et un poète arabophone qui sont tous les deux issus de peuples qui ont vécu la colonisation dans leur chair de manière très dure. La colonisation française en Algérie, elle était limite génocidaire aussi. Au début, c'était des massacres de tribus entières parce qu'ils voulaient prendre la place des Bédouins qui étaient là. Je chante en arabe essentiellement, en français, un petit peu en anglais. Et sinon, des fois, j'invente des mots aussi quand je trouve pas un truc. Par exemple, j'ai inventé un mot, on dirait de l'anglais, mais c'est pas de l'anglais, c'est « chifly ». Par exemple, « I wanna chifly », ça veut dire « je veux faire l'amour ». Mais c'est pour camoufler, parce qu'en Algérie, tu ne peux pas dire à une fille comme ça « je veux faire l'amour ». Tu lui dis « I wanna chifly », comme ça, si elle le prend mal, tu lui dis « ça ne veut pas dire ça ».
Et en Kabyle, non ?
En Kabyle, si, j'ai chanté une fois avec Idir. J'ai fait un petit bout de texte en arabe, puis j'ai mis quelques petites phrases en Kabyle. J'étais très fier. Et puis la dernière fois que j'étais très fier, c'était l'été dernier, j'ai joué à Tizi Ouzou. Et j'ai repris une chanson de Matoub. Et les Kabyles, ils regardaient tous ma bouche parce qu'ils savent que je ne chante pas en Kabyle, ils savent que je ne parle pas le Kabyle. Et quand je commençais à chanter en Kabyle, ils étaient tous là, ils regardaient ma bouche pour voir s'il y avait un playback ou une entourloupe et tout. Mais c'était mortel, j'étais très 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 fier de moi. Attends, ce n'est pas une langue facile. L'anglais à côté, c'est de la pâte à modeler, je te jure. C'est vrai qu'il y a une couleur chabi qui est dominante dans cet album, mais je ne crois pas qu'elle soit majoritaire vraiment. C'est juste que je suis algérois, je viens d'Alger. J'aurais du mal à être autre chose qu'algérois, bien que ça fait 20 ans que je suis grenoblois, je me sens toujours grenoblois d'adoption, toujours vraiment algérois. Moi, quand je suis arrivé en France, quand Ben Aknon, Messonnier me manquait, j'écoutais Amr Zahi. Donc c'est ma nourriture. Et tu sais, quand tu invites des gens à manger, tu leur fais quelque chose que tu aimes. En général, tu fais un plat que tu aimes. Et c'est un peu ça qui se passe dans la musique, aussi bien dans Gnawa Diffusion que dans Marché Noir, dans ma nouvelle expérience. Tous les ingrédients que j'ai mis dans cette musique, c'est des ingrédients que j'aime. Après, je ne dis pas que j'ai réussi les plats, tu vois, je ne dis pas que la cuisson est parfaite, mais en tout cas, pour moi, ma couleur algérienne, c'est le chabi. Ma couleur africaine, c'est Tegnawit. Ma couleur peut-être plus universelle serait le reggae, ou, tu vois. Voilà, mais c'est des paliers en fait, c'est juste des paliers identitaires.
De toutes les musiques que j'ai entendues, seule la musique chabi n'a pas été métissé. Mmh. Tu as pu quand même la métisser parce qu'à un moment, il y avait du hip-hop, il y avait du raga, il y avait même du jazz, du shabby en jazz. Ouais. J'en ai rêvé. Et voilà, il y avait, c'est la première fois que le shabby a été métissé à d'autres musiques.
Oui. Mais c'est parce que je suis aidé aussi par des gens qui ont la capacité de faire ça. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais j'ai à ma droite le meilleur mandoliste d'Algérie, peut-être même du monde, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent du mandol, tu vois.
Non.
Donc c'est quelqu'un qui a une connaissance des modes chez Abi qui est hallucinante. Il a une connaissance rythmique qui est hallucinante. Et en plus, il connaît la musique occidentale de manière parfaite. Il connaît les modes, il connaît tous les modes mineurs, majeurs, septième, je ne sais pas quoi. Et puis, il connaît vraiment Tobot, Al-Musiqa Al-Arbiya, Al-Fum Hafdom. Donc, quand tu veux faire un travail de mix ou quand tu veux mélanger des rythmiques nouvelles avec des couleurs shabby, c'est clair que tu peux très vite tomber dans le bateau ou dans le mauvais goût. Parce que si tu n'as pas la maîtrise des modes, si tu n'as pas quelqu'un derrière qui te blinde la maîtrise des modes, parce qu'une fois, une note, dans le shabby, c'est ça en fait, les modes du shabby, une note change le mode. Donc si tu n'as pas quelqu'un qui a cette maîtrise, et moi je ne l'ai pas, mais je sais que c'est ma lanterne algéroise. Je pense que si je n'avais pas cette personne-là avec moi, je n'amènerais pas cette couleur avec autant d'affirmation et avec autant de présence. Sur cet album, il y a 6 chansons en français sur 12. Moi, j'ai beaucoup de mal à chanter en français en disant « re », tu vois, ça ne me ressemble pas vraiment.
Donc, je t'adore.
Voilà, je préfère dire… Par exemple, tu vois, tu ne pourrais pas dire « je voudrais être un fauteuil », ça fait con. Par contre, quand tu dis « je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames », c'est poilu, tu vois, il y a un truc qui fait que on sent que le gars, il a vraiment envie d'aller, tu vois, là-bas. Merci.
Et puis là, on a un artiste qui nous vient de l'île de la Réunion, c'est Zorteil. Salut Zorteil.
Ouais, bonjour à tous. Voilà, Zorteil, from La Réunion, un métro exilé là-bas depuis 10 ans. Moi, je suis originaire du Lot-et-Garonne, et puis je suis parti m'exiler à La Réunion, je fais de l'électro, et puis j'ai été charmé par d'abord la musique réunionnaise, le Maloya, tout ce qui se rattache au Maloya, c'est vraiment une musique qui est chargée de culture, de douleur aussi, mais qui est chargée de culture, qui a été interdite jusqu'au début des années 80, c'est... quelque chose, 1980, quoi, c'était hier. On dit qu'il n'y a pas vraiment eu d'esclaves à La Réunion parce que c'était des volontaires, mais enfin, quand on vous oblige à travailler dans un champ à coup de bâton, voilà, le volontariat, il a une limite quand même, je trouve. Et en fait, les gens n'avaient pas le droit de parler en travaillant. Et pour pouvoir communiquer entre eux, ils avaient... Ils chantaient les choses de la vie. Petit à petit, est né le Maloya, comme ça. Et ça a été réprimé, évidemment, puisque c'est devenu... un chant un peu contestataire aussi, forcément. Et ça a été réprimé jusqu'au début des années 80, c'est hier. Bah, si je fais ça moi aujourd'hui, c'est un peu aussi dans le message de liberté. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, pour que le Maloya puisse exister librement dans la rue. Et ça a été vraiment un combat, il y a des gens qui ont fait de la prison pour ça. À chacun de mes conseillers, dès que j'emploie quelque chose de créole, etc., j'ai une pensée pour ces gens-là. Et en général, même d'ailleurs, pour les gens qui se battent pour les libertés. Alors, avant les années 80, il y avait une fête de famille, vous faisiez du Maloya. Eh bien, la police était susceptible d'arriver, bien qu'il n'y ait pas de loi, mais la police était susceptible d'arriver et de vous casser les instruments. Le Maloya, c'était le chant des esclaves, ça a été assimilé au Parti communiste. C'était très populaire au sens péjoratif du terme, quoi, que de faire du Maloya à La Réunion, alors que c'est magnifique, c'est l'âme qui parle, quoi. Il y a une âme dans le Maloya. Voilà. Et en fait, mon électro est assez loin du Maloya, bien que j'ai fait des morceaux Maloya, je me suis appliqué à en faire. Je cherche l'âme, justement.
Alors, Zorteil, tu viens de la métropole, on dit un métropole.
On dit un oreille à La Réunion.
D'où le nom ?
Eh ben, un peu. J'ai des vieux claviers, des boîtes à rythme, et je fais une électro, un peu house, un peu tech, un peu trance, un peu Maloya. Tout est joué, en fait. Il n'y a pas de platine, il n'y a pas d'ordinateur. C'est un peu mon défi. C'est à l'ancienne, quoi, des pédales d'effet et quelques claviers, quoi.
Mais il y a une scène musicale, un mélange d'électronique et de musique traditionnelle. Il y a aussi Zong, aussi, de l'île de Réunion.
Yes. Ouais, ouais. Bon, eux, ils sont barrés vers un peu moins vers le traditionnel aujourd'hui, mais avec leur dernier album Fracture. Là. Mais il y a d'autres gens. Il y a Jaco Marron, qui est un pur produit créole, lui. Et de toute façon, là-bas, à La Réunion, ce qui est magique aussi, c'est que quasiment tout le monde fait de la musique. Il y a des groupes de maloya familiaux, en famille, quoi, avec le frère, le cousin, là, on échange des instruments, pas de problème.
Pour revenir un peu ici à Marseille, comment tu as atterri au Festival Babelmed ?
Un peu comme tout le monde, j'ai envoyé un dossier. J'avais déjà rencontré Monsieur Aubert précédemment à La Réunion où je m'étais produit à l'occasion du Sac qu'il faut, pas dans le cadre du Sac qu'il faut malheureusement, mais à l'occasion du Sac qu'il faut, bah, y a des scènes ouvertes un peu autour dans les bars, etc. Et puis voilà, puis je suis motivé aussi pour diffuser ma musique et la partager avec plein de gens.
Tu penses que c'est quand même une ouverture pour pouvoir justement envisager des tournées européennes ?
Ah bah moi, pour vous parler franchement, c'est le tournant, quoi, c'est de mon aventure, en fait.
Et dans le salon professionnel également, on a augmenté les surfaces, on a 300 mètres carrés de plus, suite aussi à de nombreuses demandes de développement de ce salon, avec des centres plus petits. Traditionnellement, les années précédentes, on avait une centaine de stands, mais on avait pratiquement le double de structures représentées. On a souhaité donner une visibilité plus grande à tout le monde, donc en créant toute une série de petits stands, ça fait partie aussi des nouveautés de cette année.
Au marché de la musique, c'est ça, à Babelmed Music.
Oui, Babelmed Music 2010.
C'est la première fois que vous venez ?
Oui, c'est la première fois qu'on a un stand. Oui. Et donc nous sommes le bureau d'experts national libanais. Nous sommes une association à but non lucratif et accréditée par le ministère de la Culture. Donc du coup, on fédère la scène parce que voilà, chaque artiste est dans un label, chaque label promouvoit un genre de musique. Donc du coup, nous on réunit tous ces labels et tous ces artistes et on parle en leur nom.
C'est des artistes libanais ?
C'est des artistes libanais, oui. Libanais ou produits au Liban, selon le cas. Parce qu'il y a pas mal d'artistes libanais qui collaborent avec des artistes étrangers.
Et on peut dire qu'il y a une scène musicale au Liban, parce qu'ici à Marseille, on n'en entend pas trop parler.
Ah oui, il y a même une très grande scène, ou plusieurs scènes selon le style, mais oui, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de concerts, de soirées, les artistes jouent très souvent. Non, ça bouge beaucoup, oui, et il y a beaucoup de collaborations avec l'étranger aussi, donc du coup, ils voyagent, Non, ça, vraiment, ça bouge. On a de la musique traditionnelle, on a du jazz, du reggae, du rap, électro, expérimental, musique traditionnelle revisitée, fusion, world music, on a de tout en fait. On représente toute la scène. Ouais, donc on a un catalogue de plus de 40 artistes, tous styles confondus. Ouais, ouais.
Il y a des artistes qui sont connus en dehors du Liban ? Que tu peux citer ?
Bah, y a des artistes comme Ibrahim Mahalouf ou bien Zad Moutaka, Rabia Abdou Khalil, par exemple, ça c'est des artistes libanais, mais bon, qui vivent et sont produits à l'étranger. Et après, il y a des artistes comme Sokin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, là, je ne connais pas.
Mais ce sont des artistes libanais qui ont vécu au Liban, qui sont produits au Liban, mais qui ont percé à l'international. C'est de la fusion, c'est de l'électro mélangé avec du traditionnel. Ce sont des artistes qui tournent beaucoup, qui chaque été ils ont une tournée en Europe. Alors de dire qu'ils ont percé, qu'ils sont connus internationalement jusqu'aux États-Unis, non, mais ils ont du travail, oui, enfin, ils tournent, oui. Ouais.
À part Babelmed, est-ce que vous avez d'autres opportunités pour essayer de faire découvrir la musique libanaise à travers le monde ?
Bah, déjà on a Womex, donc on a aussi un stand de Womex.
Qui est ?
Qui est aussi un forum musical comme Babelmed, mais qui est plus à l'international. Et après, on a différents festivals ou relations avec des festivals et on essaye un maximum de promouvoir, d'être toujours en contact avec les programmateurs pour voir un peu l'actualité, leurs demandes et voir si on a quelqu'un à proposer. Et on a un site internet et on est très actifs sur internet d'une manière générale. On a une newsletter et on s'associe avec d'autres newsletters aussi pour toujours transmettre l'information. Et on essaye un maximum, autant que possible.
Oui, nous sommes une maison de disques hongroises avec des artistes un peu de tout genre. Et on a fait une sélection d'artistes de musique du monde, de jazz. pour Babelmed. Des musiciens hongrois de la plus grande partie. Nous avons quelques artistes internationaux. Nous avons un pianiste américain avec une formation hongroise. Nous avons un groupe avec 6 artistes de 6 différents pays. Pologne, Israël, Serbie, France, Côte d'Ivoire et Hongrie.
Vasarely Péter, domicilié à Budapest, propriétaire de Narata Records, une maison de disques hongroise.
Est-ce qu'ils ont une reconnaissance au niveau, en dehors des frontières déjà de votre pays ?
Quelques-uns oui. Nous avons un groupe qui a fait la Scandinavie, l'Allemagne, donc Danemark, Suède, Allemagne, qui va avoir un tour cette année en Belgique et Hollande. À part ça, nous avons un autre groupe qui a fait plutôt les pays de l'Est, mais qui est passé à la radio en Grande-Bretagne, en Serbie, en Pologne, en Tchéquie, qui a été présent sur une compilation. Mais la plupart d'entre eux, c'est des artistes hongrois qu'on essaye d'exporter.
C'est difficile de les exporter ?
Ah oui, très difficile.
c'est dû à quoi ?
Ben, je crois qu'aujourd'hui, il est difficile de vendre quoi que ce soit. Alors, comme exporter, ça veut dire vendre, avec la situation économique et déjà...
Mais en dehors de ça, il n'y a pas aussi un facteur culturel qui rentre en jeu ?
Le facteur culturel, je ne crois pas. D'habitude, les gens sont ouverts aux autres cultures. Ils sont même très intéressés. À mon avis, il y a une demande beaucoup plus importante au niveau public pour la culture des pays de l'Est que ce qui est représenté par les possibilités que ces groupes, ces artistes peuvent obtenir pour le voyage, l'hébergement. Les prix ne sont pas les mêmes ici que dans les pays de l'Est. Donc ce n'est pas à cause de la demande qui manque que c'est difficile de les exporter, c'est au niveau financier.
D'accord. Et alors un festival comme Babelmed, un salon justement, oui, où il y a un marché de la musique, où on rencontre des professionnels, ça vous aide ?
Ben, nous espérons, c'est pour ça que nous sommes ici. À mon avis, c'est la seule possibilité de présenter les artistes de nos pays, d'autres pays de l'Est aussi, pour la France, pour l'Espagne, enfin aussi pour les autres exposants qui sont présents.
Est-ce qu'il y en a beaucoup justement des maisons de disques comme ça en Hongrie qui essayent d'exporter la musique ?
Ben, il y a beaucoup qui essayent, mais il y a très peu qui font quelque chose, qui font le pas. D'habitude, les gens parlent peu les langues, surtout le français. L'anglais, ça va encore. Et bon, il y a une organisation nationale, Music Export Hongrie, qui existe, mais qui marche pas très fort.
C'est dû à quoi ?
Même si on est présent sur le marché, une promotion à l'étranger pour les groupes hongrois, c'est pas évident. Et surtout, il faut des concerts, il faut avoir la possibilité d'organiser des tours. C'est ce qu'il faut pour tout le monde, pour le public comme pour les musiciens.
Et est-ce qu'en Hongrie, dernière question, il y a des structures aussi qui aident justement les artistes à émerger ?
Il y a quelques structures de ce genre. Déjà, on peut avoir des différentes subventions pour le voyage, surtout les échanges culturels qui sont subventionnés. Donc, quand on a un groupe français, par exemple, qu'on peut inviter en Hongrie, dans ce cas-là, on reçoit des financements des instituts culturels hongrois. Et ça permet aussi aux groupes hongrois de venir en France, par exemple. Il y a les instituts hongrois dans les capitaux en France, à Paris, à Berlin, à Prague, à Madrid. Donc les instituts hongrois font leur travail. C'est que les maisons de disques, les managers, les labels indépendants investissent un peu plus d'énergie, surtout pas obligatoirement de l'argent, parce qu'avec peu d'argent et beaucoup d'énergie, on peut aussi avoir les résultats.
Alors là, je suis dans le stand, non, c'est pas Fanfare Vagabondus.
C'est la Korea Arts Management Service, donc qui est là pour promouvoir des artistes coréens dans le style vraiment traditionnel. et des artistes aussi qui composent en fusion entre les musiques traditionnelles et contemporaines.
Et alors il y a une scène, on peut parler de scène aussi, de musique en Corée, comment on parle d'une scène en France ou dans d'autres pays?
Les arts traditionnels sont très répandus en tant que culture traditionnelle de la Corée, donc il y a vraiment une scène qui existe. Il peut y avoir aussi bien des formations à tendance jazz, mais donc des reprises traditionnelles à tendance jazz. Annyeonghaseyo. Oui, il y a vraiment une scène des gens qui sortent d'écoles de musique traditionnelle, aussi bien que maintenant contemporain à tendance occidentale, quoi, et qui aujourd'hui mixent le traditionnel avec
la musique moderne.
Voilà.
Le jazz ou le rock?
Jazz, rock, ils aiment beaucoup le jazz. Et donc il y a des volontés, enfin il y a des groupes qui se forment vraiment pour jouer aussi bien en Corée que aussi à l'international.
Est-ce qu'il y a, c'est facile de s'exporter quand on est issu de ce pays-là, un musicien coréen par exemple?
Oui, ils en ont les moyens, ils peuvent être subventionnés aussi pour aller à l'étranger. Et puis au niveau de l'Asie, il y a vraiment une plateforme aussi de rencontre des musiques asiatiques. Pour eux là-bas, c'est leur marché de musique. Alors il y a une exception par rapport à la France. Le marché ne s'ouvre pas très bien aux musiciens coréens. La raison, je ne la connais pas personnellement. Ils font beaucoup d'efforts, mais on ne sent pas une volonté en France de vouloir écouter de la musique coréenne ou de découvrir la musique coréenne. C'est encore un peu comme quelque chose d'inconnu. Je pense que y a certains groupes coréens qui ont vraiment leur place dans le champ musical en France. Très festif et en même temps qui apportent une touche de culture coréenne qui amène à travers la musique l'âme coréenne et qui est très intéressante à découvrir comme d'autres par ailleurs. Pour la France, ça démarre mais très très doucement.
Dans d'autres pays, ça marche mieux?
Oui, dans d'autres pays, en Europe même, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Angleterre. Même ce qui reste traditionnel, c'est très intéressant à voir. C'est comme les tambours japonais, qui sont plus invités en France que les tambours coréens, alors que ça se ressemble beaucoup. On a l'air de plutôt choisir le Japon qu'on connaît plus ici en France que des tambours coréens, par exemple.
Mais la Corée du Sud, on peut pas. La culture n'a rien à voir aussi avec la culture japonaise.
C'est très différent aussi. C'est différent.
Et là, les artistes que vous proposez là sur la compilation, donc c'est la compilation s'appelle Into the Light. Donc tout ça, c'est des artistes qui viennent de Corée.
Oui. Qui déjà tournent déjà pas mal en Europe, à l'international. Je suis française d'adoption. Je suis coréenne d'origine.
Bonjour aux éditeurs de Marseille.
안녕하세요. 저는 김미정, 미정입니다.
En fait, nous, on a un stand qui s'appelle Catalan Music, donc à Babelmed. Nous, on est là depuis la première édition de Babelmed, donc ça fait 6 ans déjà.
Si t'equivoques, et diuen pobre noi, surt del camí correcte i et diuen paranoi. És absurd, la gent es compara, has retingut cada cara com una polaroid.
C'est-à-dire, nous, on est l'Institut catalan des industries culturelles, donc rattaché au ministère de la Culture du gouvernement autonome de la Catalogne. Et notre travail est de faire la promotion et la diffusion des artistes catalans qui travaillent en Catalogne. C'est-à-dire, ils ne sont peut-être pas catalans, mais ils font leur carrière artistique en Catalogne. Et on les aide à se faire connaître au-delà des frontières catalanes. Je trouve que le marché français n'est pas forcément très ouvert. Nous, on travaille beaucoup avec les programmateurs des festivals et des salles. Donc, on édite tous les ans des CD de musique du monde, pop rock, jazz et musique électronique. Justement, pour si on les rencontre, leur donner un petit témoin de ce qui se fait en Catalogne. Mais il y en a qui sont intéressés, mais j'ai envie de dire que les gens qui sont intéressés par la musique de là-bas, c'est des fois des gens qui ont un certain lien personnel. Donc du coup, qu'après ils ont envie de montrer ça dans notre festival. Donc je trouve que c'est pas évident. Déjà que les gens vous répondent, qui vous prêtent un peu d'attention, c'est pas facile.
En tout cas, si vous êtes là pour la 6e année, c'est que vous y trouvez votre compte.
Mais tout à
avec Babelmen.
Ouais, ça c'est vrai aussi. Mais en fait, nous, on a ce qu'on appelle un stand parapluie. On l'appelle comme ça. Donc du coup, qui accueille des groupes et des entreprises catalanes. Donc nous, on donne le soutien institutionnel, mais c'est pour permettre à ces groupes voilà, qui sont en train de commencer. Et aussi à des festivals catalans qui sont là donc aussi avec nous pour montrer aussi ce qui se fait là-bas. Donc on a toujours des retombées positives. Donc c'est pour ça qu'on reconduit tous les ans notre participation à Babelmed.
This is a great song for you.
Bonjour, je m'appelle Luc Maïtoukou, je dirige une structure qui s'appelle Zoo Culture, membre du programme Équation Musique. Donc nous sommes présents sur ce salon pour la 4e fois maintenant. Et donc nous présentons toutes nos productions, tout notre travail, nos activités en Afrique pour collaborer avec des partenaires d'un peu partout, tous ceux qui sont sur le Babel en tout cas. On continue à faire grandir ce réseau avec, parce qu'on a eu beaucoup de bons résultats. Voilà pourquoi on est encore là avec Équation Musique, avec de nouveaux membres cette fois-ci qui sont rentrés.
Vous représentez quel pays ? Des pays africains, j'imagine ?
Oui, on représente des pays africains, on représente une douzaine de pays quand même. Là, moi, je suis sur le Sénégal et le Congo-Brazzaville. Donc Luc Yatcheke, côté de moi, il est du Cameroun, mais sinon nous avons le Burkina, nous avons le Kenya, l'Afrique du Sud, nous avons l'île Maurice.
Et ça fait combien d'artistes à peu près, Zoo Culture ?
Alors Zoo Culture, oui, ça représente une dizaine d'artistes en agence, mais nous ne faisons pas que diffuser des artistes, nous faisons de la formation aussi, du spectacle vivant, régie technique, le management, la gestion d'artistes, les contrats de la musique, etc. Son of Kenya, Omota de Goti well. Son of the nation,
Bedi well. Son of Africa, professor. Il faudrait que l'artiste sache comment se comporter sur la scène et même en dehors de la scène. Être capable de pouvoir attirer des diffuseurs internationaux. Comme les artistes européens, ils doivent être à même de susciter l'intérêt des directeurs de festivals européens. Quelquefois, les gars, ils sont des créateurs, les artistes sont des créateurs, et nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de médiateurs. Il n'y a personne pour les suivre, et quelquefois même, ils ont des problèmes pour préparer le matériel de promo. Et nous voulons combler ce vide-là.
D'accord.
Merci.
Merci bien.
C'est moi qui vous remercie. It's been a great 10 years you've been
around in Kenya. Duty is calling, Omotade, you have to go now. Amnesty International, au niveau local, il y a une antenne à Marseille. Mm-hmm. Vous avez créé aussi une antenne pour les plus jeunes.
Oui, en fait, il y a de plus en plus au niveau international, ça marche tout dans les pays anglo-saxons d'ailleurs, des groupes de jeunes qui militent. On fait plus justement des actions peut-être visuelles ou bien en contact avec les gens.
Et justement, alors quelles sont les actions que vous proposez ? Quelles sont les actions qui montrent la visibilité, qui donnent une visibilité à Amnesty International,
c'est ça ? Bien sûr. Qu'en fait, on va plus être dans la formation, soit grand public, que soit des jeunes en particulier. Donc ce qu'on fait, nous, c'est surtout les concerts, en fait. On fait des stands aux concerts. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que c'est dans des lieux où on peut avoir vraiment beaucoup de gens. Et là, on va les sensibiliser, on va leur dire, est-ce que vous connaissez Amnesty ? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans tel pays ? Est-ce que vous connaissez un petit peu ? Est-ce que vous savez que votre signature peut vraiment changer des choses ? Et voilà, donc c'est vraiment de l'information, de la sensibilisation. Et moi, dans ces cas-là, en fait, j'essaie de me remettre en situation il y a quelques années, quand je ne savais absolument pas ce que c'était et que j'étais complètement persuadée que je ne pouvais rien faire. Donc je me dis, quand on apprend que finalement, on peut faire quelque chose. Alors c'est peut-être petit, évidemment, on peut pas changer le monde d'un coup, mais on peut faire quelque chose. Et moi, je me souviens, quand j'avais appris ça, j'avais vraiment été choquée, quoi. Et donc je me dis, les gens, finalement, si on leur dit ça, souvent ils sont sceptiques, évidemment, donc il faut un peu leur expliquer.
Comment convaincre les gens à signer une pétition ?
Déjà, leur donner des chiffres, la situation des personnes qui s'améliore dans 40% des cas. Après, il faut leur dire aussi tout ce qui se passe au niveau mondial, leur donner des exemples, quoi. Je discutais la dernière fois avec une juriste et je lui disais, mais enfin, tu crois vraiment que ça sert beaucoup ce qu'on fait ? Et elle me dit, mais attends, mais tu te rends pas compte ? Donc la juriste, elle me dit, il y a quelques années, t'aurais parlé d'une cour pénale internationale, on t'aurait rigolé au nez. Maintenant, ça existe. Tu crois pas que c'est une victoire, ça? Alors évidemment, ça marche plus ou moins, mais ça marche. Enfin,
ça, c'est le discours que tu tiens aux personnes que tu peux accrocher bah, pendant les...
La Cour pénale internationale, c'est peut-être un peu technique, mais il y a d'autres sujets. Il y a par exemple la peine de mort. Il y a vraiment un énorme mouvement en ce moment vers une abolition de la peine de mort dans le monde. Cette année, c'est la première année où il n'y avait eu aucune exécution en Europe. Mais c'est un mouvement, c'est une tendance générale quand même. Et ça, c'est la pression des ONG, des associations qui expliquent.
Alors, on parlait tout à l'heure des actions, de la visibilité de Amnesty International. Alors justement, là, dernièrement, il y a eu le festival Babelmed. Mm-hmm. Alors vous étiez présent.
Oui. Bah, en fait, on essaye de faire souvent les festivals comme ça, bah, surtout au Dog des Sud, les organisateurs, ils sont vraiment super, super sympas. Donc, quand c'est comme ça, on a un stand, on a quelques pétitions à faire signer, on a pas mal d'informations. On est en contact avec eux depuis un petit moment parce qu'on les sollicite assez souvent pour les concerts ou bien les festivals. Et donc, on a une personne dans l'antenne jeune qui s'occupe spécifiquement de ça, de les contacter, de leur demander s'il y a moyen d'avoir un stand à tel événement. Et puis, bah, s'ils nous disent oui, bah, voilà, on a des badges, on a en général 4 badges. Et voilà, on arrive un petit peu avant l'ouverture, on installe le stand et puis c'est parti, quoi.
D'accord, vous venez à l'ouverture des portes pour le public, en fait, à 19h, 19h30,
ouais,
en même temps que le public.
Ouais, au début, ouais.
Est-ce que vous avez pu rencontrer beaucoup de gens? Est-ce que les gens, ils étaient sensibles à vos actions?
En fait, c'est marrant parce qu'on voit dans les différents types de concerts, souvent, les différents types de publics. Alors, c'est très rigolo, par exemple, pour les concerts, tout ce qui est un peu reggae, on a très, très, très bon public qui vient nous voir et qui est vraiment sensible à ça. Donc, ça, c'est un exemple. Sinon, bah, pour Babelmed, c'était rigolo. On avait eu les deux premiers soirs pas trop, trop de gens qui venaient au stand. Donc, on allait plutôt les voir un petit peu. Alors, bien sûr, on est complètement détendu. Hein, on ne va pas agresser les gens. On y va en souriant. On leur dit bah, est-ce que vous aurez. Vous voulez signer des pétitions, c'est pour les droits de l'homme, on peut vous expliquer en 2 minutes, tout ça. En général, les gens sont assez réceptifs à ça. Puis s'ils n'ont pas envie, bah, n'y a pas de souci, évidemment. On souhaite une bonne soirée, et puis voilà, il n'y a aucune obligation. Mais souvent, ils sont intéressés, puis ils viennent voir, ils se renseignent. Ah bon, d'accord, il y a ça, voilà. Et puis on discute, et puis s'il y a un sujet qui les intéresse plus particulièrement, on va plus discuter de ça, et puis voilà. Mais nous, on n'est pas particulièrement stressants, hein. Enfin, on est aussi détendus, sympas, on va parler de sujets un peu sérieux, c'est sûr.
Mais c'est surtout ce que vous représentez, enfin ce que vous défendez,
ouais,
par rapport à un festival comme Babelmed, où les gens viennent se détendre, ils ont travaillé toute la semaine, le soir ils vont voir un concert pour se détendre, puis après vous venez...
C'est là qu'après, il y a tout qui est dans la forme. Pour moi, c'est central, quoi. C'est sûr, si tu vas avec... tu fais la gueule et tu vas leur dire « purée, t'as vu le monde, oh là là, t'as vu ». T'arrives et que t'as le sourire et tout, que t'es sympa, que tu leur dis « bon, bah voilà, il y a ça qui se passe ». Mais vous savez que vous pouvez agir très facilement, il suffit de signer, il faut leur montrer du positif. Il y a beaucoup de positif à dire, donc il faut vraiment pas hésiter à le dire. Et puis après, bah... Je pense qu'il y a des gens, la plupart, se sentent bien après avoir signé. C'est de se dire, bah, grâce à moi, bah, la situation de cette personne va sûrement s'améliorer. Ou... La plupart des gens, ils repartent du stand avec le sourire.
Alors dans une soirée comme Babelmed, vous faites à peu près combien de signatures?
Je dirais une centaine de signatures dans la soirée. Les signatures, c'est très très important, mais j'aurais tendance presque à dire que l'information est encore plus importante.
D'accord. C'est-à-dire mais de toute façon, les gens qui signent, ils sont informés.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc. C'est de redonner ce pouvoir aux gens, d'enlever un peu ce qu'on essaie de nous remplir le crâne avec des « de toute façon, on peut rien faire, de toute façon, le monde est pourri et puis c'est comme ça ». Pour moi, c'est le plus important.
Et justement, là, le fait de signer, ça ne suffit pas d'être informé. Est-ce que vous faites un suivi? Est-ce que les personnes ont la possibilité après de suivre l'affaire pour laquelle ils ont signé, les personnes qui sont concernées dans cette affaire? Est-ce qu'ils peuvent avoir des informations par la suite?
Alors déjà, ce qu'on leur demande les 3/4 du temps, c'est s'ils veulent recevoir newsletter d'Amnesty. Ouais. On envoie en plus une newsletter d'Amnesty à Marseille, locale, donc sur les événements à Marseille. Mais bien sûr, on essaye de récupérer leur email. On leur dit bien évidemment qu'on ne les spammera pas, il y a un mail par mois, c'est tout, quoi. Donc évidemment, s'ils veulent se renseigner sur la personne, c'est encore mieux. On essaie de leur donner de la documentation aussi, qui explique un petit peu la situation d'une personne ou bien d'un thème particulier.
Toi, t'es bénévole ?
Oui.
Les gens à Marseille sont bénévoles ?
Oui, ça fonctionne sur voilà, le bénévolat.
Est-ce que c'est pas une bonne formation d'ailleurs pour après trouver du travail, de,
ah,
de
oui,
devenir
oui,
bénévole
bah,
à Amnesty International ?
C'est excellentissime. Bah, dans quelque association que ce soit, du moment qu'ils font un petit peu du bon travail, évidemment, c'est hyper formateur. Je crois que c'est vraiment une école de la vie à part entière, parce qu'on travaille sur un sujet, mais on rencontre énormément de gens qui vont vous parler un petit peu d'autres sujets un peu annexes et qui vont vraiment vous faire réfléchir sur la vie en général. Hein. C'est pas que les droits de l'homme, là, c'est vraiment surtout. Et c'est extrêmement intéressant, c'est vraiment très très formateur, ouais.
Un peu obsédé aujourd'hui sur en termes de réflexion sur comment renouer les liens entre création et éducation populaire, entre l'art et le monde du travail et bien évidemment le monde des lieux qui sont la plupart du temps la musique, c'est un grand. La musique, c'est un grand élément qui permet, en particulier aux jeunes, mais pas seulement, de s'approprier la culture. S'approprier la culture.
Alors, on dirait de Babelmed, je suis avec le groupe Urban Swing Sound System. C'est un groupe de la région, PACA ?
Pas du tout.
Attends, je vais prendre la bonnette parce qu'il y a trop de vent. Sinon, entre nous, vous n'avez pas du son, par hasard ?